Aujourd'hui, je voudrais parler du combat. En Éphésiens 6, 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter ou à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Chers frères et sœurs, notre vie de chrétien n'est pas un long fleuve tranquille où nous pouvons nous laisser glisser au fil des ans. Chaque jour, nous devons mener des combats, comme il était dit dans le verset, contre les dominations, les autorités des princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Que veut nous dire Paul quand il nous avertit des combats que nous devons mener ? Et qui sont ces dominations, ces autorités, ces princes et ces esprits? Paul nous met en garde. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout, et encore plus, quand nous avons décidé de marcher avec Jésus. Le chemin de la vie devient encore plus difficile. On peut lire en Matthieu 7, 14, « Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui l'y trouvent. » Notre vie sur terre avec Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Nous devons lutter contre les dominations. Dans l'Ancien Testament, Malkouth est synonyme domination. Malkouth est synonyme de règne, c'est-à-dire de l'exercice du plein pouvoir par Dieu, par son Messie ou par les hommes. Dans le Nouveau Testament, la domination n'a plus de rapport avec le règne, mais le mot au pluriel désigne les puissances célestes qui ont été vaincues par Jésus-Christ sur la croix. Ainsi, nous pouvons lire en Colossiens 2, 15, Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a triomphé des dominations, mais elles sont toujours présentes. Il les a vaincues sur la croix, mais elles ne seront détruites que lorsqu'il remettra le royaume à son Père. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Nous devons aussi lutter contre les autorités. Les autorités que nous avons à combattre ne sont pas les gendarmes, pas les hommes politiques, ou toutes les personnes qui sont dans les administrations et qui dirigent notre pays. Les fonctionnaires qui font notre feuille d'impôt. Les autorités célestes, les autorités civiles et militaires sont les servantes de Dieu. Elles exercent la justice et encouragent à observer les lois. L'apôtre Paul recommande aux chrétiens de les respecter et de leur être soumis. Eh ouais. En Romains 13, 1 à 7, nous pouvons lire « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas une bonne action. » Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui a dit tout ça. Nous devons respecter les autorités et leur être soumis, sauf si elles exigent de contrevenir au commandement divin, comme c'était le cas pour Pierre et les apôtres avec la police du temple. Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent : jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et plus loin, Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les autorités que nous avons à combattre sont célestes. Ces puissances ou principautés ont été créées par Christ, mais ayant suivi Satan dans sa révolte contre Dieu, elles appartiennent maintenant au règne des ténèbres. Ce sont elles qui feraient souffrir les hommes ou les pousseraient à commettre le mal. Elles ne peuvent cependant pas entraver l'action du Saint-Esprit qui conduit l'homme à Dieu ou qui lie le croyant à Jésus-Christ. Nous devons lutter aussi contre les princes de ce monde des ténèbres. Dans le Nouveau Testament, le diable est appelé le prince de ce monde. Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Toujours dans Jean, mais 14, au chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Et encore dans Jean 16, verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. De ce mot dérive aussi celui de principauté, les princes désignant les anges qui ont suivi Satan. Satan et sa cour de princes sont toujours là pour nous faire tomber. Les chrétiens doivent souvent lutter contre les principautés malfaisantes, mais ils sont vainqueurs, car Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs à la croix. Tous ces êtres ont été créés par Christ et sont soumis à son autorité. Certains d'entre eux se sont révoltés, mais Christ les a vaincus et les a soumis. Il a donné à ses disciples autorité sur eux. Aucune de ses forces ne peut nous séparer de son amour. L'avènement de Christ manifestera sa victoire totale sur eux. Nous devons lutter aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Matthieu 12, 45. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. En Luc 7, 21, à la même heure, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et en Luc 8, 22, les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Pensez que ces esprits méchants n'existent plus, que c'était il y a 2000 ans, et que maintenant, ils ne sont plus là. ils ont disparu, ils ont renoncé. Ne commettons pas cette erreur. Vous avez tous entendu parler des virus ou d'autres microbes qui résistent de plus en plus au traitement. Les chercheurs disent qu'ils s'adaptent, se transforment, qu'ils sont de plus en plus résistants. Là où il y a un siècle, une bonne tisane et une bonne couette faisaient l'affaire, il faut maintenant un traitement de choc aux antibiotiques. Et malgré cela, il arrive que ces fichus virus fassent de la résistance. Je pense qu'aujourd'hui, ces esprits méchants dont Paul nous parle en Éphésiens 6:12 sont comme les virus et microbes. Ils ont su s'adapter à notre monde actuel. Ils ont eux aussi muté. Ils sont beaucoup plus sournois. Devant la connaissance grandissante de l'homme, ils ont pris des formes plus discrètes, mais tout aussi destructives, si ce n'est plus. Ces esprits mauvais existaient déjà du temps terrestre de Jésus, mais ils se sont développés depuis, et voici quelques-uns en vrac. La liste n'est malheureusement pas close à ces quelques exemples. Ce sont les esprits de la cupidité, du savoir, de la jalousie, du doute, de la discorde, de la méchanceté, de la frustration, de l'indépendance. Je fais ce que je veux, je suis libre. Cet esprit d'indépendance est selon moi un des plus terribles. Plus l'homme a acquis au cours des siècles de la connaissance, plus il a voulu être libre. Et plus il a voulu être libre, plus il s'est éloigné de Dieu. Plus il s'est éloigné de Dieu, plus il a ouvert la porte à ce mauvais esprit d'indépendance et à tous ses petits copains. En fait de liberté, l'homme s'est de plus en plus entravé au monde. Et au lieu de vivre libre dans la seule dépendance de Christ, nous avons ouvert la porte à une multitude de contraintes. Attention! Je ne dis pas que toute cette connaissance est néfaste. Je pense que le progrès a du bon. Il y a quelques siècles, l'ami Gutenberg a inventé la première imprimerie. Imaginez notre monde sans cette invention. Combien de Bibles y aurait-il aujourd'hui? Combien de traités, de livres écrits par ces hommes de Dieu seraient dans votre bibliothèque sans cette merveilleuse invention? Malheureusement, il y a les revers de la médaille, car vous n'êtes pas sans ignorer tous ces livres, affiches et autres qui sont écrits et imprimés dans un tout autre but et qui ne font que nous lier au monde et nous éloigner de Dieu. Et que dire d'Internet? Ce merveilleux outil qui m'a permis de construire ce message aujourd'hui, qui met du beurre dans nos épinards depuis 10 ans, qui nous permet d'être reliés à l'autre bout du monde avec Skype et autres logiciels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui peut être un outil pour rompre l'isolement et permettre aux personnes qui ne sont plus mobiles de rester en relation avec les enfants et proches. Internet, qui nous permet d'avoir accès à une multitude de bonnes choses, mais aussi une multitude de fléaux qui lient les hommes depuis l'enfance à travers smartphones et tablettes, puis plus tard l'ordinateur, avec tous ces jeux, réseaux sociaux, sites de rencontres pornographiques, jeux en ligne et toutes ces choses. Tout ce progrès n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses et je crois que la plupart est voulue par Dieu qui est souverain en tout. Malheureusement, toutes ces bonnes inventions, entre guillemets, l'homme s'est évertué de les transformer pour pouvoir mieux dominer et aujourd'hui, à toute bonne chose, il y a le revers de la médaille créée par le monde. Nous devons de plus en plus être vigilants. Notre vie sur terre avec Christ n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un combat permanent. Éphésiens 6, 12, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, etc. Alors me direz-vous, quelle solution avons-nous ? Je vous avoue que si nous devions rester là, je serais le premier à être bien désarmé, à ne pas savoir comment m'en sortir, car les pièges du monde sont nombreux et je suis bien faible. Heureusement, Paul nous a donné, à la suite de ces versets, une liste d'armes pour résister à toutes ces attaques et pour partir au combat avec tout un équipement. Éphésiens 6, versets 13 à 18. Florine, tu peux les lire, s'il te plaît ?
Verset 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Encore c'est le suivant.
Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile.
Merci Florine. Lequel... Ouf ! Nous sommes armés pour le combat. Nous pouvons déjà être plus sereins. Je ne vais pas développer ces 6 versets qui méritent plus qu'une petite parenthèse dans un message. Est-ce que pour autant, nous ne serons plus tentés ? Nous ne subirons plus d'attaques de ces fichus virus de toutes sortes ? Non, bien sûr. Mais Dieu est bon. Il ne veut pas que nous soyons tentés d'abandonner le combat sans solution. Ainsi, en 1 Corinthiens 10, 13, on peut lire « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais quel est donc ce moyen que Dieu met à notre disposition quand nous sommes à bout de force ? Il faut tout lui abandonner et lui laisser mener le combat. Et encore un grand passage que je vais demander si tu veux toujours lire, ou Annie, en 2 Chroniques, chapitre 20, versets 10 à 17.
Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jézabkiel, fils de Jacarie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph et de Jachaziel, et dit « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem. » Et toi, roi Josaphat, ainsi nous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et vont Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous.
Merci Florine. Oui, quand le combat est au-dessus de nos forces, l'Éternel le mène à notre place. Encore faut-il avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes sans force et tourner notre regard vers lui, comme l'a fait Josaphat pour le peuple juif au verset 12. Reconnaître notre impuissance, tourner les yeux vers lui, le laisser mener le combat. Voilà ce que Dieu attend de nous. Oui, chers frères et sœurs, nous avons parfois des combats violents à mener. Il nous semble que nous n'y arriverons jamais. N'oublions pas que Dieu est avec nous. Un petit rappel dans Josué 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » N'oublions pas que si nous avons l'humilité de reconnaître notre faiblesse, notre impuissance, Dieu combattra pour nous. Toujours dans 2 Chroniques, verset 15, il dit « Ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Conclusion. Des combats, nous en avons mené, nous en aurons encore à mener tout au long de notre vie. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous ne craindrons rien, et comme le psalmiste, nous pourrons dire, les Bibles, l'Éternel est mon berger.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de l'année.
Chers frères et sœurs, notre vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille, mais avec Dieu et avec Christ notre Seigneur, nous aurons la victoire. Amen.